Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Et aujourd'hui, il y a de la matière avec sans doute la plus grande catastrophe de hack de l'histoire de l'informatique. J'exagère peut-être, mais à peine. On va aussi vous parler et vous expliquer des raisons pour lesquelles Facebook se déchaîne contre Apple dans la presse et en public. On va aussi parler de Twitter qui essaye plein de choses et qui vous humanise, de l'autre catastrophe Cyberpunk 2077 et de plein de sujets tech qui ont fait l'actualité cette semaine. Je suis Patrick Béja. Et j'ai pour cet épisode l'immense plaisir de recevoir, comme je le disais sur Twitter, la star internationale de la sécurité informatique qui va tout nous expliquer en deux minutes à Sunburst, cette affaire qui occupe toute la presse et toutes les administrations depuis plusieurs jours. Comment ça va, Stéphane ?
Salut, très bien, et toi ?
Écoute, moi je suis en forme, il y a des sujets intéressants à couvrir, donc je suis forcément content.
Par contre, je tiens quand même à signaler quelque chose aux auditeurs, parce que c'est quand même hallucinant. En fait, je pense que Patrick a passé un espèce de cap en matière d'influence, parce que maintenant, il influence le monde. Parce que, pour vous dire, il m'a invité à ce podcast il y a un mois, d'accord ? Donc, on ne parlait pas encore de SolarWind, etc. Et le jour où j'arrive, quelques jours avant, paf, il y a ce truc qui sort, énorme, et dont on va parler aujourd'hui. Donc, Patrick influence le monde.
C'est incroyable. Quel sujet te plairait ? Quel sujet t'intéresserait ? Est-ce que la plus grande catastrophe de l'histoire en sécurité informatique t'intéresserait ? Oui, sans doute. Donc, voilà, j'ai juste passé deux coups de fil, et puis c'était bon. Tu sais, la Finlande n'est pas très loin de la Russie, donc moi, j'ai le numéro direct de Vladimir. Donc, tu vois, c'est assez simple pour moi. C'est pas grand-chose.
C'est vrai, il y avait des Vikings russes qui bataillaient avec les Finlandais.
Exactement. On va quand même remercier les auditeurs qui permettent à cette émission d'exister, à savoir les patriotes que je nomme aujourd'hui Vincent le mago Ariek, Jaël, Thibaut Declerc, Laurent Renaud, Laurent Ribaud, Yann Quétu, Romain, Alexandre Hébré, Mathieu Bodona, Jordan Lutz et les producteurs qu'on remercie chaque mois, les producteurs qui contribuent de manière exceptionnelle à l'émission. Kale, Olivier Maury et Martif, merci à vous tous de soutenir l'émission et merci à tous ceux qui considèrent cette idée d'aller sur patreon.com/rdvtech pour la soutenir aussi. Alors, effectivement, la voix est très très forte encore, hein, Stéphane. Tu satures beaucoup, donc je ne sais pas ce qui se passe.
Mais on dit que c'est la tienne par rapport à moi.
C'est ma voix qui est trop forte, c'est étrange ça. Bon, écoutez.
Ouais, c'est ce qu'on dit, c'est ce que dit Frédéric dans la chatroom. Hein.
Ah ah ! Alors écoutez, on va en direct et ouvrir les paramètres de son parce que j'ai l'habitude et normalement ça prendrait bien longtemps à faire tout ça, mais je vais le faire maintenant. Les niveaux, et non, pourtant les niveaux sont bons. Bon, bah écoutez.
Ouais, écoute.
Bon. Écoutez, ça a l'air d'aller. De toute façon, we'll fix it in post, comme on dit par chez nous. Donc, le gros sujet de... oui, parce qu'on est en direct, évidemment, sur Twitch, twitch.tv/notepatrick. On a des commentaires en direct de la chatroom.
Et oui.
On va donc vous détailler autant que possible l'affaire Sunburst, qui est un hack d'ampleur, je crois, sans précédent. Je n'ai pas suivi toutes les histoires de hack de l'histoire de l'informatique, mais j'ai quand même... j'ai compris pourquoi tu étais trop faible dans la chatroom, sur Twitch. Il y avait un réglage
à arriver. C'est que sur Twitch, en fait.
Oui, c'est que sur Twitch. Donc, il y a... j'ai pas suivi toutes les histoires de hack de l'informatique, mais je pense vraiment que celle-ci est la pire. Et c'est marrant quand même parce que c'est un hack qui est méga élaboré, qui est évidemment effectué par un État. On imagine que c'est la Russie, d'où ma plaisanterie avec Vladimir tout à l'heure. Il y a de très fortes indications que ce serait la Russie, et ça a touché évidemment des sociétés privées, comme Microsoft et autres, mais aussi des administrations à tous les niveaux du gouvernement américain. Et donc on va parler de comment ça s'est passé, mais le truc qui est intéressant à retenir, je crois, qui m'a marqué, c'est que c'est les scénarios catastrophes de films, en fait. C'est tous les composants de scénario catastrophe de film, sauf que évidemment, on se rend compte encore une fois que c'est pas comme au cinéma et qu'il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de bataille avec des Uzi et des Kalachnikov, il n'y a pas de, tu vois, comment dire, c'est pas un film, mais c'est pour le coup les scénarios catastrophes dont on parle dans les films avec un gouvernement étranger. On va pas dire ennemi, mais au moins régulièrement hostile, qui a accès aux communications d'énormes administrations américaines comme le département du Trésor, le département du Commerce, le département, attention, de la sécurité intérieure, de l'énergie, des affaires étrangères. Et ils pouvaient, semble-t-il, d'après les premières informations qu'on a, les hackers pouvaient accéder à toutes les informations des réseaux informatiques, donc les emails, les communications, les documents, etc., par l'intermédiaire de ce hack. Donc on est vraiment dans le scénario de la pire catastrophe de hack possible, je crois. Alors, peut-être que tu vas pouvoir confirmer ou infirmer la chose, Stéphane, et puis surtout, nous expliquer synthétiquement, hein, bien sûr, sans rentrer dans tous les détails, mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Sunburst, de SolarWinds, de Orion? Qu'est-ce que c'est que tout ça?
Alors, très, très clairement, je pense que dans 5 ans, il y a un Michael Bay qui sort sur le sujet. Hein. On va pas se leurrer. Enfin, alors, peut-être pas Michael Bay. On peut faire du Shyamalan aussi hein, là-dessus, hein, avec un côté très sombre. Ça peut être sympa aussi. Mais clairement, il y a de quoi faire un film. Je pense que pour moi, c'est. Alors, je suis désolé, c'est un peu comme un chirurgien quand il voit une belle tumeur, tu vois. Moi, je suis épaté par ce hack. Je trouve que c'est un des plus beaux qui a jamais été réalisé, même si je ne cautionne pas, bien évidemment. Hein. Mais les techniques employées sont absolument, gigantesques et les mecs sont vraiment très très forts. Qu'est-ce qui s'est passé en fait
Avant ce qui s'est passé, est-ce que toi tu confirmes que c'est peut-être le plus gros hack de l'histoire?
Ah oui. Enfin, clairement. Ou alors connu, quoi. Tu vois. Enfin, a fuité en tout cas.
Ouais.
Mais oui, pour moi c'est un des plus gros là en fait on n'est pas comme dans alors tu sais quand les ransomware sont arrivés notamment avec NotPetya où ça a bloqué des états où on leur demandait des rançons etc.
Où ils bloquaient les systèmes informatiques effectivement.
Voilà, ils bloquaient les systèmes. Donc là on a réussi à bloquer quasiment tout un pays avec NotPetya à une époque. Enfin quand il est sorti. Mais là, on espionne un pays, c'est complètement différent, et on va avoir des choses à monnayer, donc c'est totalement différent. Voire on va décrédibiliser l'État en question avec un certain nombre d'informations qu'on va faire fuiter. On parlera des conséquences après, mais les conséquences sont potentiellement absolument énormes. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? SolarWinds est un éditeur de logiciels qui édite un logiciel qui s'appelle, et notamment un qui s'appelle Orion. C'est pas un réseau Orion. Il y a beaucoup de gens qui ont fait l'amalgame c'est pas un réseau. On parle pas d'un réseau qui serait vendu comme un réseau sécurisé, etc. C'est en fait une plateforme, une solution logicielle qui va vous permettre à la fois de surveiller votre réseau, mais également vos applications, etc. Donc typiquement, ça va collecter ce qu'on appelle des logs, donc des journaux d'événements. Et donc ça va les consolider ensemble et essayer de mettre en corrélation un certain nombre d'événements. Ça va surveiller que vos équipements sont bien allumés, que vos serveurs sont bien allumés, que les applications sont bien dans un bon état de fonctionnement. Et ça va assez loin puisque c'est capable de vous dire que telle requête sur telle application a mis tant de temps et qu'il y a peut-être quelque chose à regarder parce que c'est pas normal, que vous avez des pertes de performance sur certaines applications, etc.
Donc en gros, un logiciel si on dit
qui
que...
va assez loin.
C'est un logiciel de gestion de réseau qui a donc accès à l'ensemble de votre réseau informatique, on peut dire ça comme ça?
C'est un logiciel de surveillance de ta production informatique, en gros, si on doit résumer, qui comprend à la fois ton réseau, tes serveurs, etc. etc. Donc ça va quand même relativement loin. C'est un logiciel de surveillance.
D'accord.
Donc ça te permet de vérifier que, en fait, tout est OK et il y a des lumières rouges qui s'allument. C'est ce qu'on appelle de la supervision. Hein. Tu as des lumières rouges qui s'allument s'il y a un serveur qui tombe, s'il y a des trames réseau qui ont l'air d'être perdues, s'il y a ton serveur de base de données qui d'un coup se met à mouliner et ne comprennent pas pourquoi et que peut-être que tu es en train de subir une attaque DDoS ou que tu as un trafic anormal sur ton site web. Oui. Et donc, du coup, pour que tu aies le temps de pouvoir remonter une machine, etc. etc.
D'accord. Donc, c'est du monitoring de réseau et c'est installé sur une immense partie des... c'est beaucoup de sociétés et d'administrations l'utilisent pour surveiller leur réseau.
Exactement. Exactement. Donc, elles ont des serveurs de collecte, hein, donc des serveurs SolarWinds, Orion. Et puis après, il y a des petits agents qui sont déployés sur les différentes machines ou les différents équipements et qui viennent donner des renseignements à la console centralisée.
Voilà. Très bien.
Donc, le hack, qu'est-ce que c'est? Et c'est là où les mecs sont très forts. C'est qu'en fait, SolarWinds s'est fait pirater son serveur où il stocke les sources du logiciel. Et les pirates ont insidieusement ajouter dans les sources du logiciel ce qu'on appelle une backdoor, donc un cheval de Troie qui permet de prendre le contrôle de la machine sur laquelle il est installé et d'effectuer un certain nombre de tâches. Ils ont installé cette backdoor, ce qui fait que visiblement SolarWinds s'en est pas rendu compte. Et petit à petit, en fait, en compilant la solution, donc tu sais comment ça marche, hein, on a du code source, on le compile pour en faire un exécutable. Eh ben, quand il était compilé, en fait, il était compilé avec la backdoor. Mais en fait, comme ils ne s'en sont pas rendus compte, chaque fois qu'ils faisaient une mise à jour, il y avait toujours la backdoor. Donc, il y a eu X versions de Orion qui se sont retrouvées avec ce cheval de Troie intégré et qui ont été déployées parmi les clients de SolarWinds. Et je crois qu'on parle aujourd'hui d'à peu près 18 000 clients.
Et le truc, c'est que on n'a pas, donc c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est une attaque par la supply chain, donc les fournisseurs en fait. Ils n'ont pas hacké directement le département du commerce, le département de la sécurité intérieure, le trésor, etc.
Ils sont passés par un tiers avec lequel travaillent ces instances.
Exactement.
En l'occurrence, SolarWinds.
Et en fait,
très souvent, si tu regardes en France, il y a eu le hack et alors moi dans ma société on a été particulièrement vigilant après. Aujourd'hui on essaye de cibler ce qu'on appelle aussi les ESN, donc toutes les sociétés de services qui travaillent et qui ont des données confidentielles de ce type de client. Et en France il y a Soprasteria qui s'est fait hacker. Et en fait aujourd'hui l'argent on le trouve avec effectivement l'information, tu vois. Et donc plutôt que de hacker directement quelqu'un, d'essayer d'attaquer le département du trésor, etc., etc. Ils ont préféré partir sur une solution qui était largement déployée sur le territoire américain, donc en l'occurrence Orion de SolarWinds, et par la même occasion, leur permettre de hacker l'ensemble des personnes qui étaient clients de la solution.
C'est ça.
C'est d'une intelligence énorme.
C'est accessoirement un truc qui est pas accessible à n'importe qui, parce que même si aujourd'hui on les regarde avec un œil un petit peu méfiant, SolarWinds, c'est pas la moitié d'un con. C'est quand même des gens qui sont très prudents sur ce genre de choses, qui ont affaire à de la sécurité informatique régulièrement. Je veux dire, c'est ce qui démontre encore plus la sophistication de l'attaque, c'est qu'ils ont réussi à installer cette backdoor dans le code de Orion et de le faire distribuer par ce biais, un petit peu comme un virus qui utilise une cellule pour se reproduire à l'intérieur d'un écosystème, sans se faire repérer pendant des mois, parce que ça a commencé il y a, je sais plus, c'était en mai ou en juin, quelque chose comme ça, peut-être même avril. Et comme je le disais, SolarWinds, ils surveillent leur infrastructure. Donc, c'est vraiment en partie pour ça. Il y a aussi des rapports qui commencent à sortir selon lesquels les attaquants n'auraient jamais utilisé deux fois le même ordinateur pour ne pas se faire repérer. Il y a tout un tas de choses, mais tu me confirmes que c'est pas facile de hacker SolarWinds. Forcément, c'est de leur faute, mais d'une certaine manière, c'est pas de leur faute. C'est le genre de truc qu'il est difficile de prévoir. Ou je suis trop gentil avec eux.
Là, il faut laisser l'enquête. Il faut laisser l'enquête suivre son cours. Mmh. Non, je te confirme, c'est pas facile. Normalement, dans ce genre d'entreprise, on a plusieurs verrous qui permettent normalement de faire en sorte que le code source est testé avant d'être compilé, etc. Donc, en général, ce qui se passe, et c'est là où il faut voir toute l'ampleur de l'attaque, si tu veux, parce que Déjà, on a des processus internes qui font que normalement, voilà, le code, il est sécurisé, on est très certainement dans un système type DevSecOps, etc. Donc, avec de la sécurité qui est ajoutée à tous les niveaux, de l'analyse des différents risques, etc. Mais pire, normalement, on est dans des sociétés où le code est audité systématiquement avant une mise en production, soit par des mécanismes automatiques avec des sondes qui permettent de détecter du code, détecter qui n'irait pas, qui n'aurait rien à faire là, mais très souvent aussi également par des humains, ce qu'on appelle du peer review, où en fait, ton copain qui est développeur, qui travaille sur un autre projet, va reprendre ton code pour regarder avec un œil neuf et vérifier qu'effectivement tout va bien. Et puis, on a aussi des tests avant mise en production, qu'on appelle très souvent des tests de non-répudiation, qui vérifient en fait qu'il n'y a pas une ancienne fonctionnalité qui ne marche plus avec les nouvelles qu'on implémente, tu vois. Donc, mais on alors, a du tout coup... un panel de tests, normalement, qui fait qu'on peut détecter.
Mais alors, du coup, t'es un peu en train de me contredire. Ça veut dire qu'ils auraient dû. Est-ce que ça veut dire qu'ils auraient dû s'en apercevoir? Ou est-ce que ça veut dire que c'est tellement bien caché et sophistiqué que c'était à ce point difficile de s'en apercevoir?
Alors, et c'est là où je dis, il faut laisser l'enquête se faire, parce que on est dans les deux cas de figure, en fait. Soit il y a une faute côté SolarWinds dans les processus et dans la façon dont ils auditent leur code, etc. Et dans ce cas-là, bah, ils sont en faute. Soit l'attaque est tellement bien menée, tellement bien ficelée et tellement technologiquement au point qu'effectivement, ils ne pouvaient rien voir et on n'a rien à leur reprocher.
À leur reprocher, oui.
Voilà. Donc c'est... là, aujourd'hui, on n'a pas assez d'infos pour juger de ça, en fait.
Microsoft a détaillé la manière dont a fonctionné l'attaque, qui passait pour les experts par une DLL qui était compromise dans le programme de Orion. La modification du code source est vraiment minime. Ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas dû être détecté, mais c'est vraiment minime. Et évidemment, ça fait appel ensuite à un serveur externe, etc. etc. Et d'ailleurs, il faut préciser que le réseau est maintenant neutralisé. Le réseau du hack
est
neutralisé. Donc, il n'y a plus, a priori, rien à craindre de ce hack-là. On commence à entendre des murmures selon lesquels peut-être que d'autres groupes de hack auraient également ciblé SolarWinds d'une manière différente, et on n'a pas plus d'informations là-dessus, mais évidemment, quand c'est une société qui est aussi présente partout, il n'est pas surprenant que plusieurs hackers essayent de la cibler. Mais donc, on ne sait pas quelles sociétés ont installé cette version compromise du logiciel. A priori, tous ceux qui faisaient les mises à jour, et il est important évidemment de faire les mises à jour, sont touchés. Les dernières versions suppriment ce hack, donc il faut mettre à jour évidemment quand on connaît le problème pour être sécurisé. Et Microsoft et FireEye, j'en ai pas parlé la semaine dernière parce qu'on entendait la semaine dernière des murmures de FireEye, qui est une société qui est là aussi dans la sécurité informatique, qui avait été hackée. Et c'est par là que c'est sorti, et c'est en s'apercevant de ce hack que les gens ont regardé d'un peu plus près de quoi il s'agissait et qu'ils se sont rendus compte que le truc de FireEye, qui était quand même un gros problème, était la partie émergée de l'iceberg, quoi.
Alors, FireEye, qui s'en soit aperçu en premier, ça, j'ai envie de dire, c'est presque logique, et heureusement pour eux. Je crois que le patron de FireEye est passé devant le congrès, hein, du coup, pour s'expliquer sur cette faille de sécurité. FireEye est une grosse société de sécurité américaine, hein, un peu l'équivalent de celle dans laquelle je travaille, avec en plus des solutions qu'ils développent eux-mêmes autour de la sécurité du poste de travail, des serveurs, etc., et de la détection d'outils malveillants sur les machines. Mais effectivement, ils font aussi ce qu'on appelle de la détection d'incidents, de la réponse à incidents. Donc c'est eux qui enquêtent aussi quand une société se fait hacker. Donc voilà, là ils ont pu faire des enquêtes en interne. Mais on voit qu'au final, même une société comme FireEye, qui est une société de sécurité, fait de toute façon quand même appel à des fournisseurs, et que ben, ces fournisseurs sont faillibles. Et aujourd'hui, beaucoup d'attaques qu'on voit passent par des fournisseurs qui peuvent être faillibles et parfois des fournisseurs de sécurité. Moi, les trois dernières attaques que j'ai gérées donc ces deux dernières semaines sur des clients de la région passaient par une seule et même unique faille de sécurité sur un équipement de sécurité particulier dont la liste a fuité sur le Darknet.
Ouais.
Et alors là, on n'était pas sur des choses de cette ampleur-là, parce qu'on était plus sur de l'accessible. Donc là, on voyait, c'était assez rigolo d'ailleurs, parce que en fonction de ce qu'il y avait chez le client, je savais à peu près le niveau du hacker et je savais que voilà, globalement, ça pouvait être un adolescent chez lui, alors que sur certaines attaques, c'était probablement quelqu'un d'un peu plus avisé. Mais là, on est sur quelque chose qui dépasse l'entendement, c'est-à-dire que là, on est, je pense, sur plusieurs dizaines, voire peut-être centaines de personnes qui ont été dédiés à ce hack et qui ont imaginé l'ensemble des choses. Et puis attention, parce qu'après, il faut pouvoir traiter les données auxquelles on a accès, les envoyer sans se faire prendre, etc.
C'est surtout ça, oui. C'est ça qui est vraiment... Parce que envoyer les données, si tu te mets à envoyer des dizaines de mégas à un endroit que l'organisme... Alors peut-être qu'il n'aurait pas été repéré partout, mais au moins certains ont justement des outils de surveillance et ça serait vu. Donc, mais bon, parlons un petit peu... Ça serait vu si ce n'était pas bien fait. Mais du coup, pour conclure, parlons un petit peu des conséquences qu'on peut imaginer. Et là, je vous avoue qu'on est un petit peu dans le noir, nous et un petit peu tous, parce qu'on ne sait pas à quel point les données ont été extraites. On n'est pas encore certain. Certains me posaient la question, j'en parlais tout à l'heure, c'est a priori la Russie, mais on n'a pas la confirmation définitive, mais enfin des suspicions suffisamment importantes pour que...
Côté gouvernement Trump, c'est ce qu'ils disent, mais après, on n'a pas les preuves formelles.
Ouais, disons que... Alors attention, c'est certains du gouvernement qui disent que c'est a priori la Russie et que ça serait surprenant que ça ne le soit pas. Et Trump, comme à son habitude, dit « Mais non, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est sûrement les Chinois, voyons. » Et d'ailleurs, c'est une preuve de plus que l'élection s'est mal passée et que ça a été hacké et que donc j'ai gagné. Alors qu'évidemment, heureusement, Dieu merci, le système de vote n'a pas du tout été touché. Donc bon, mais mettons de côté les divagations du président américain. Effectivement, comme on le disait, il y a énormément d'administrations qui ont été touchées. Des sociétés privées également, peu l'ont avoué aujourd'hui. Microsoft en fait partie. Mais on ne sait pas. Là, on rentre plus dans la politique que dans l'informatique. Quel que soit l'État qui était à l'origine de ce hack, ils ont certainement récupéré beaucoup d'informations, peut-être des informations extrêmement sensibles, voire classées secret défense. Encore une fois, il y avait le département du Trésor, le département de la sécurité intérieure, donc le Homeland Security, le département d'État. Donc, et il est possible qu'ils aient eu accès à toutes les communications et toutes les informations qui étaient sur les serveurs de ces services et de ces administrations. Donc, jusqu'où est-ce que ça va aller ? Si c'est la Russie, je pense qu'ils vont le garder dans une poche et s'en servir quand ça sera utile pour eux. De quelle manière ? Comment ? On ne sait pas. Encore une fois, on ne sait pas ce qu'ils ont sorti. Et de la même manière, on ne parle même pas là des sociétés privées qui ont été touchées. Parce qu'on sait que Microsoft a été touché. Quelles autres sociétés privées est-ce que, au hasard, Apple, Facebook, Apple peut-être pas, j'imagine, enfin j'en sais rien, hein, ça se trouve peut-être, mais Facebook, Google ou plein d'autres petites sociétés qui ont des secrets à garder, pas forcément les GAFA. Peut-être d'ailleurs, encore une chose, peut-être que, et c'est à peu près sûr, d'autres gouvernements ont été touchés. On parle des Américains, mais il n'est pas du tout impossible que, au hasard, la France ou d'autres gouvernements aient été touchés et été victimes du hack. Quand je vous dis, c'est le scénario catastrophe de film de Michael Bay, sans les explosions et les courses poursuites en voiture, on est vraiment dans cette potence. Enfin, on est dans cette configuration, quoi.
Ouais, absolument. Et sans compter l'impact pour les entreprises privées qui ont été touchées. En termes d'image, je pense à Microsoft. Microsoft a quand même avoué, et bravo à eux de l'avoir fait, parce que beaucoup auraient joué la politique de l'autruche en disant on va laisser l'enquête, etc. Ils ont quand même avoué que ça avait touché en partie les infrastructures Azure, ce qui veut dire que potentiellement il y a des clients qui sont sur Azure qui ont été touchés. A priori, pas de français, mais quand je regarde la carte des impacts, il y a quand même quelque chose autour de Marseille. Donc, ce qui est normal, hein, puisque Azure a un data center en région parisienne et un sur Marseille en backup du data center parisien. Du coup, on est en droit de se poser des questions. Et je sais que moi, j'ai déjà des clients qui m'ont appelé pour me demander si potentiellement ils allaient être impactés, etc. etc. Donc, ouais. Les impacts sont énormes et vont faire perdre très certainement du business à certaines de ces sociétés.
En conclusion, le petit truc que je dirais qui pourrait minimiser l'impact pour minimiser l'impact, qui aurait pu être plus grand, c'est comme on disait tout à l'heure, la backdoor est installée dans les réseaux des entreprises. S'ils sortent des centaines de mégas et des gigas de données, ça se voit plus vite. Donc j'imagine qu'ils ont été prudents et qu'ils n'ont pas essayé de tout sortir et de sortir tout ce sur quoi ils mettaient les mains. Donc là, c'est un petit peu pour temporiser la panique légitime qu'on pourrait avoir à l'écoute de cette affaire. Mais c'est le seul, comment dire, c'est le silver lining, comme on dit en anglais, c'est le... je ne sais même plus comment on dit en français le silver lining, mais vous comprenez l'aspect positif de toute cette histoire. Donc bon, bah voilà, pour SolarWind, Orion, Sunburst. Sunburst, c'est en rapport avec SolarWind, le vent solaire, le nom qui a été donné à l'attaque. Microsoft l'appelle SolariGate. Donc il y a deux noms différents. Oui. Vous saurez de quoi il s'agit maintenant.
Je préfère Sunburst.
Ouais, c'est plus explosif, justement, le burst du soleil. Ouais.
C'est tout gate maintenant, sinon.
Oui, c'est original au moins, Sunburst, c'est vrai. Voilà. Donc voilà pour cette histoire. On va faire une toute petite pause et puis après, on va vous parler de Facebook qui se déchaîne contre Microsoft et ça va être très intéressant aussi, vous allez voir. Mais avant ça, j'aimerais vous parler de Patreon. Patreon, qui est le moyen de soutenir le Rendez-vous Tech. Vous savez que le Rendez-vous Tech est une émission qui est accessible à absolument tout le monde, qui est gratuite, mais qui est financée et soutenue par les auditeurs qui apprécient notre travail, qui apprécient la manière dont on traite les sujets. Par exemple, aujourd'hui, on a, j'espère, réussi à expliquer, synthétiser une histoire qui était très compliquée et qui est extrêmement importante, mais de manière non pas bêtifiée, mais simplifiée et compréhensible. Et c'est un travail qui n'est pas évident, et sur lequel on fait beaucoup d'efforts, et on le fait chaque semaine. Et en plus de ça, j'espère que quand vous écoutez l'émission, vous passez un bon moment. C'est essentiel, parce que si vous ne passez pas un bon moment, eh ben, vous n'êtes pas intéressé par l'écoute des épisodes suivants, et donc vous n'êtes pas informé sur ces sujets si importants. Donc tout ça, ça fait que l'émission, c'est un vrai travail qu'on fait depuis plus de 10 ans maintenant. Et si vous appréciez ce travail depuis quelques temps, je me dis, enfin j'espère, que vous vous direz ça vaut bien un petit euro par-ci par-là, un euro par épisode par exemple ou 2 euros par épisode en soutien de ce qu'on fait. Si c'est le cas, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech tout simplement et vous abonner, ça prend 2 minutes, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez et c'est le moyen principal de soutenir l'émission, patreon.com/rdvtech. Vous pouvez le faire là tout de suite sur votre téléphone. Le lien est dans les notes de l'émission, mais si vous ne le faites pas tout de suite, vous pouvez aller, quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, comme je le dis toujours, ça fait cling avec les clés, et là, moyen mnémotechnique, pas moyen mnémotechnique, mais plutôt réflexe pavlovien, vous entendez cling et vous dites « Ah, mais Patrick, il faut que je pense à Patrick !» et que j'aille sur patreon.com/rdvtech. Et l'étape suivante, c'est que Patrick vous dit « Merci ». Et vous fait un petit hug amical avec un masque quand même. Et donc, non seulement vous y pensez, mais en plus, vous avez un sentiment de chaleur et de bienveillance de ma part, rien que parce que vous y avez pensé. Donc, les clés dans le bol, c'est un moment un petit peu magique et privilégié pour vous tous et pour nous tous. Décidément, je regorge d'inventivité pour ces promotions sur, sur Patreon.
J'ai pas de bol, mais j'ai fait mon cling Patrick quand même.
Ah, c'est gentil, c'est gentil. Tu sais que je ne les prépare pas, hein, c'est complètement sur le moment, c'est de l'impro complète.
Ça fait quand même quelques années qu'on se connaît maintenant, j'ai l'habitude.
Bon, on va parler un petit peu de Facebook et de Facebook qui attaque Apple avec une, j'ai presque envie de dire, une violence sans précédent.
Véhémence.
Une véhémence, voilà, c'est peut-être un terme plus approprié. Vous savez que, on en a déjà parlé, Apple a imposé de plus en plus de paramètres de sécurité et de composants de sécurité à son OS mobile, iOS, et la dernière chose en date était un élément qui était censé arriver avec iOS 14, mais qu'ils ont repoussé au début de l'année 2021, parce que les publicitaires étaient très inquiets et voulaient plus de temps pour implémenter les changements nécessaires. Qu'est-ce que c'est que ce changement en particulier ? C'est la demande d'autorisation aux utilisateurs dans les apps d'utilisation de leurs données collectées pour de la... C'est pas spécifiquement de la publicité, mais pour une utilisation par des sociétés de tierces parties. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous lancez une application, quelle qu'elle soit, si elle collecte des informations sur vous, sur votre utilisation, sur votre démographie, etc., si elle veut faire sortir ces informations, ces données, de l'utilisation à l'intérieur de la société, elle doit vous demander l'autorisation. Donc, évidemment, ça concerne tout un tas d'applications, mais principalement les applications de ciblage publicitaire, puisque énormément d'éditeurs utilisent les données collectées par eux. Par exemple, ils utilisent votre email et ils peuvent savoir que votre email est utilisé sur votre compte Facebook. Alors, ils n'ont pas l'email... Enfin, bref, je prends un exemple synthétique et simple, hein, mais peut-être trop simple, mais ça aide à comprendre. Ils savent que votre email est utilisé sur Facebook parce qu'ils demandent à Facebook « Est-ce que vous avez des informations sur cette personne ?» Et ils disent à Facebook « Nous, on a cette personne qui utilise notre app. Est-ce que vous voulez faire de la pub à cette personne, utilisez nos données qu'on vous transmet pour le cibler plus spécifiquement. En plus, vous, Facebook, vous avez des données sur leur âge, leur localisation géographique, etc. Donc, vous pouvez très bien cibler. Et la société qui édite l'app que vous utilisez sur le moment peut du coup tirer un revenu publicitaire de ces données et financer le fonctionnement de cette app. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, l'app en question, avant de pouvoir communiquer avec Facebook pour vous cibler, devra vous demander votre avis. De la même manière que les apps vous demandent l'autorisation d'utiliser l'appareil photo ou le micro ou la localisation, eh ben, ils devront vous demander l'autorisation d'utiliser vos données privées pour un éditeur tiers. C'est-à-dire que s'ils utilisent vos données privées uniquement en interne, pour le bon fonctionnement de l'app, et ben là, c'est pas nécessaire de vous demander l'autorisation. Donc, c'est vraiment l'autorisation de transmettre vos données privées à un éditeur tiers, ce qui est le ressort principal de la publicité. Évidemment, j'ai pris l'exemple de Facebook. Dans mon exemple, c'est pas innocent, parce que Facebook est l'une des sociétés les plus touchées par ce changement. Facebook et Google également, évidemment. Et ils ont commencé à mener une attaque contre Apple, dans la presse, et pas que, en expliquant que Apple est en train de tuer l'Internet gratuit. Je me rends compte que sur Twitch, je suis sur une mauvaise catégorie. Merci de me l'avoir signalé, je vais changer ça immédiatement, désolé. Donc, c'est un changement hyper important. Et c'est un truc qui va avoir une conséquence, je pense, indéniable sur les revenus des sociétés qui utilisent de la publicité pour se financer et des développeurs qui utilisent de la publicité pour se financer. Mais l'attaque de Facebook est vraiment... Apple veut tuer l'Internet gratuit parce que une énorme partie des applications et des services se financent par la publicité. Et en réduisant leurs revenus, eh ben, Apple va impacter leurs revenus en réduisant la possibilité d'utiliser les données. Il y a vraiment deux côtés à cette histoire, parce que on dit depuis des années et des années qu'il faut être maître de ces données privées. Je pense qu'il est difficile de dire que ce n'est pas une chose importante. Mais de l'autre côté, autant l'attaque de Facebook est ironique, enfin cynique même, j'irais jusqu'à dire, parce que ceux qui seront impactés avant tout le monde, c'est eux et c'est Google. Ce n'est pas uniquement les petites sociétés de l'Internet. C'est eux qui vont être les plus impactés. Mais en même temps, je pense que, comme on en a déjà parlé dans l'émission à plusieurs reprises, ils n'ont pas forcément tort sur le principe que ça risque de réduire les revenus de certaines sociétés. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Stéphane, de cette histoire ?
Ben, effectivement, les deux positions se défendent. Alors, la façon dont Facebook le fait ne se défend pas. voilà. Genre Facebook défenseur de l'humanité, ça me fait quand même doucement sourire. De la part d'Apple, c'est plutôt bien, parce que eux, ça va toujours dans leur sens, c'est-à-dire on veut protéger les données, etc., etc. Bon, je pense que quelque part, si ça les dérange pas non plus de casser un peu les pieds à Facebook au passage, parce qu'ils savent très bien que Facebook va être impacté. Après, moi, je veux quand même voir comment ça va être implémenté dans les apps, parce que si tu te rappelles bien avec iOS 14, l'arrivée des photos et du fait de demander pour chaque photo, moi, je trouve que franchement, à l'usage, c'est hyper casse-pied quand tu veux partager une photo, etc. À chaque fois, il te dit alors, est-ce que tu veux sélectionner des nouvelles photos, utiliser l'ancienne sélection, est-ce que tu veux maintenant redonner plus de droits, etc.
Bah je choisis à chaque fois. C'est des applications que je connais et donc je dis tu peux accéder à toutes les photos, c'est bon.
Ouais,
c'est donc ça. C'est plus simple.
Alors, je l'ai fait sur Instagram, je crois, mais pas sur Facebook. Mmh. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment casse-pied. Et tu vois, c'est un peu comme la sécurité. Je travaille dans la sécurité, il y a un moment où trop de sécurité tue la sécurité, et quand ça devient contraignant pour l'utilisateur, c'est pas très bon.
Mais tu crois pas que là quand même le fait de demander aux utilisateurs si on a le droit d'utiliser leurs données, d'envoyer leurs données à un site de tierce partie, ou en tout cas de les faire correspondre, est-ce que c'est pas, parce que ça va avoir des conséquences sur l'économie d'Internet, oui. C'est sûr. Mais est-ce que ce n'est pas un réajustement nécessaire ? D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent l'idée que ça va réduire les revenus n'est pas forcément prouvée, parce que ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas le droit de faire de la pub. Ça veut dire qu'on aura le droit de faire de la pub moins bien ciblée, certes, et peut-être c'est que ça. Pour les rares qui seront mieux ciblés, ça obligera les gens à faire des pubs, pas pour les rares, mais pour ceux qui seront mieux ciblés, ça obligera à faire des pubs plus intéressantes pour qu'on accepte le fait d'être ciblé. Et puis, peut-être que ça remontera le prix de la pub. C'est-à-dire qu'au lieu de balancer, je lance un chiffre au hasard, 100 000 impressions d'une pub qui n'a aucun intérêt pour 100 €, et bien peut-être que 100 €, ça te donnera seulement 50 000 ou 25 000 impressions. Mais du coup, tu vas plus les travailler et tu vas plus c'est pas. Enfin, tu vois, peut-être que ça va changer le contexte et la manière dont fonctionne la pub sur Internet, mais que la somme d'argent au final restera la même pour tout le monde et que c'est juste que la pub va coûter un petit peu plus cher, mais devra être mieux pensée. Je me demande si ça peut pas avoir cette conséquence aussi. Il y a quelques... Avant l'arrivée des réseaux sociaux de ce type-là et du ciblage sur Internet et de Google, il y avait déjà de la pub. C'est pas que la pub a été inventée par Facebook. Donc, est-ce qu'on peut pas revenir à un système plus équilibré ?
Après, ce qui a changé dans le paradigme, c'est qu'avant, tu allais sur Facebook sur ton PC, sur ton ordinateur, via ton navigateur. Donc, tu pouvais déjà mettre un adblocker si tu voulais, mais c'était pas, tu passais pas par un système Apple, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, perso, je vais très rarement sur Facebook depuis mon ordi. Si j'y vais, c'est depuis mon mobile. Et c'est vrai que Apple a la main mise sur mon mobile puisque j'ai un iPhone. Mais après, il faut aussi relativiser avec le nombre de personnes qui ont un iPhone versus le nombre de personnes qui ont du Android, qui ne sera pas touché par le sujet, tu vois.
C'est vrai, mais les clients Apple sont des clients très prisés pour ce genre de choses, parce que c'est généralement, démographiquement, des gens qui ont plus d'argent. Et du coup... parce que c'est des riches, non mais c'est ça, c'est ça. Alors, il y a bien sûr des gens qui ont beaucoup d'argent chez Android aussi, mais sur la masse, les clients Apple dépensent plus d'argent dans les apps que les clients Android. Mais bon, écoutez, on verra ce que ça donne, toute cette histoire. Moi, je vais vous avouer un truc. Ce à quoi ça me fait penser, c'est j'allais dire des dinosaures, mais c'est pas tout à fait le... C'est plus pour la taille que pour l'âge. Mais je dirais peut-être, c'est Godzilla et Mothra qui se tapent dessus dans la ville, tu vois, et qui vont... Oh, toi, tu vas nous tuer notre business model. Et tu vois, ils sont dans la ville, et nous, on est en train de les regarder, et on se dit, mais putain, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et on est en train de courir pour échapper aux débris, tu vois. C'est vraiment cette impression que j'ai. Et c'est pas... C'est pas, disons que on dit souvent qu'Apple protège la vie privée des utilisateurs et c'est 100% vrai. Ils le font beaucoup plus que les autres sociétés, mais c'est parce que leur business model est de ce type-là. Tu vois, c'est pas, oui, ils le font pour faire plaisir aux utilisateurs, pour protéger les utilateurs, mais c'est presque un hasard. C'est que eux, leur business model est différent.
Ouais, ils en ont fait un argument marketing du coup. Ouais. Effectivement, parce que il y a ça à prendre en considération. Après, la pub a évolué sans cesse sur Internet. À une époque, t'étais payé à l'impression, puis après t'étais payé au clic, puis après, tu vois, donc bon, ça va faire évoluer les modèles, ils vont trouver d'autres choses, et je me fais pas trop de soucis pour eux non plus.
Ouais.
Je pense que c'est beaucoup. Et comme tu disais, c'est un combat de monstres géants dans la ville qu'on regarde, et puis quand ils auront fini, on tirera les conclusions.
Exactement. Entre parenthèses, Facebook et Epic s'associent également contre Apple. On a déjà expliqué pourquoi, mais les apps de streaming, ça c'est assez intéressant, les apps de streaming sont en train d'arriver sur iOS par l'intermédiaire de des applications web et on a de plus en plus de comment dire, Epic, dans son Epic Game Store, vient d'ajouter l'application Spotify. L'Epic Game Store, qui est un game store sur PC. Et viennent d'ajouter l'application Spotify. Et c'est sans doute la première étape avant de transformer l'Epic Game Store en store d'applications tout court, pas uniquement pour les jeux. Moi, je pense que Tim Sweeney, on le dit parfois, il n'a même plus les dents qui rayent le parquet. Il est en train de poignarder les gens trois étages en dessous avec ses dents qui sont tellement longues. Et il veut faire un App Store complet qui couvre pas que les jeux, mais qui couvre tout. Et du coup, on comprend beaucoup mieux ces attaques de défenseurs, des petits développeurs d'applications qui sont assassinés par Apple. Non, enfin, oui, en partie. Et c'est philosophiquement le cas peut-être pour lui. Mais aussi, il a l'intention, enfin, il aimerait bien toucher de la même manière qu'il touche le marché du PC, le marché des mobiles, et pour ça, et parce que c'est un marché énorme en plus, et son App Store, c'est pas que un App Store de jeux, c'est un App Store tout court. Et c'est ça, je crois, ses ambitions depuis le début, et c'est pour ça qu'ils ont pris ces mesures drastiques avec l'App Store d'iOS. Bon, bref.
Et ceux qui rêvent d'un launcher unique comme ça seront ravis.
Oui, d'ici à ce que ça se fasse. Donc, on va continuer avec d'autres sujets intéressants. Bon, il y a encore des procès qui s'accumulent aux États-Unis contre les GAFA. C'est des procès menés par le gouvernement. Donc, c'est vraiment... on dit en anglais « when it rains, it pours ». Donc, quand il pleut, c'est une averse. C'est pas qu'il pleut un peu. Bah, là, c'est un peu le cas. On a l'impression que toutes les semaines, il y a un nouveau procès monumental qui est en train de s'implémenter. Une remarque que je trouvais intéressante, c'était que certains disaient c'est bien gentil tous ces procès, mais ça va prendre des années, ça va, et les dirigeants des sociétés, enfin les sociétés vont pas en souffrir. Ce qu'il faudrait, et je suis un petit peu sur la même ligne, il faudrait qu'il y ait des conséquences pour les dirigeants des sociétés, parce qu'ils s'en foutent en fait qu'il y ait des procès ou pas. S'ils avaient des risques légaux d'être impactés personnellement, pas de la société, d'être impactés personnellement et éventuellement, potentiellement d'aller en prison, et ben là, ils s'en préoccuperaient beaucoup plus. Et je crois que ça, comme c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle il faudrait réfléchir. Enfin, moi, je pense que... plus que des histoires de démantèlement, de casser les sociétés, peut-être, mais un moyen simple de régler, au moins de faire en sorte qu'ils fassent attention à tous ces trucs-là et qu'ils fassent, qu'on enlève un minimum de cynisme, ça serait de faire en sorte que les dirigeants des sociétés puissent être, quand il y a faute grave ou abus manifeste, qu'ils puissent être inquiétés pénalement, quoi. Bon, je ne sais pas, ensuite, je ne suis pas un juriste, je ne pourrais pas vous dire s'il y a des raisons pour lesquelles ce n'est pas le cas, il y a certainement des raisons, mais bon, bref. Ce qui est sûr, c'est que ces procès, ça ne va pas énormément les impacter dans les années à venir, je crois.
En gros, je pense qu'ils dorment tranquillement.
Ouais. Bon, allez, un sujet un petit peu plus matériel, c'est Microsoft qui pourrait être en train de suivre la voie tracée par Apple avec la conception des processeurs faits par la société. Microsoft serait en train de développer ses propres processeurs pour ses serveurs, bien sûr, mais aussi pour ses PC Surface, qui sont les plus prompts à recevoir ce type de processeur. Mais c'est évidemment des processeurs basés sur une architecture ARM, et ça veut dire deux choses. D'une part, Intel est encore plus dans la mouise qu'avant, et ensuite, si Microsoft s'y met aussi, ça pourrait donner des produits hyper intéressants du côté de la firme. Je ne pense pas qu'ils vont se mettre à faire... Peut-être qu'ils pourraient faire des designs. Je pense pas qu'ils vont se mettre à fabriquer des processeurs eux-mêmes et encore moins des PC en très très grande quantité. Ça reste des PC, leur surface, qui sont une toute petite partie de leur business. Mais peut-être faire des designs très spécifiques à leur OS et à leur machine et puis vendre les designs les mettre en, pas en open source, mais les mettre en système de licence, de la même manière que les processeurs ARM sont en licence, dire on a notre version, si vous les utilisez, allez-y. Mais bon, ça serait peut-être une étape 2. En tout cas, ils commencent à en fabriquer, à en concevoir eux-mêmes. Et c'est hyper important.
Mais ils ne pourront pas l'appeler M1, quoi.
Microsoft, hey, Microsoft 1, ça aurait été parfait.
Mais ils ne pourront pas.
MS1, c'est pas mal. MS1. Est-ce que tu aurais une préférence dans le nom du processeur MS1
ou... J'achèterai pas un.
Ah ouais, ça t'intéresse pas?
Non, mais c'est à voir. Déjà, tu vois, pour la première fois, je vais bientôt quitter Intel en processeur.
Oui,
ouais, pour un Ryzen 9. Et voilà, je vais voir. Ça fait la dernière fois que j'avais quitté Intel, pour les vieux qui nous écoutent, hein, c'était pour un Cyrix à l'époque des Intel MMX. Il y avait Cyrix et j'étais reparti. Alors, t'avais le AMD cassette, t'avais le Cyrix X, je sais plus quoi, et les Intel. Et j'avais essayé Cyrix et je crois que un mois après, j'étais retourné chez Intel parce qu'à l'époque, je faisais de la 3D et c'était une catastrophe. Donc là je vais voir. Mais bon, je sais que le Ryzen 9 a des super.
Le Ryzen. Moi, c'est aussi. Je vais vous dire, j'ai commandé mon nouveau gros PC, un PC mais de tueur. C'est c'est pas le plus gros possible, mais c'est vraiment un gros truc, mais silencieux en même temps. Et oui, moi, j'étais un gros partisan de Intel, parce que je me dis toujours, c'est le truc, la valeur sûre, quand on a besoin pour le boulot, quand tu veux être tranquille, tu dis voilà. Mais c'est impossible de résister à la puissance et au rapport qualité-prix d'AMD, là. Et si même des gens comme nous qui sont un petit peu les, je vais pas dire les réacs, mais les traditionnalistes du matériel des configs, des configs PC, si même nous on se laisse séduire par par AMD, ça veut bien dire que ça touche tout le monde, quoi, cette histoire de Intel moins convaincant.
En fait, j'avais besoin d'une grosse machine, ouais, pour à la fois jouer, faire mes montages, etc.
Pareil,
etc. Ouais. Et du coup, j'ai regardé un petit peu et je suis parti, voilà. Et là, je suis parti pour quelques temps parce qu'avec, c'est une RTX 3080.
Alors, il y a des gens qui se demandent certainement en écoutant, mais dis-nous en plus sur ta configuration, Patrick. Et dans la chatroom, on dit Ryzen 5600X. Mais enfin, Guillaume, tu plaisantes, je ne suis pas un petit joueur, c'est un Ryzen 5900. que j'ai choisi, pas un 5950 quand même, faut pas exagérer. Et au niveau carte graphique, j'ai fait un cran en dessous de Stéphane avec une 3070. Pourquoi? Parce que la 3070, elle est passive elle peut être en passif, le ventilateur ne tourne pas du tout. Et comme le silence est extrêmement important pour moi, j'ai choisi une version un tout petit peu moins puissante. Et effectivement, ouais. comme on nous le dit également dans la chatroom, encore faut-il le trouver. C'est bien ça. Alors, le problème. C'est pour ça que j'attends.
En fait, moi, je suis sur une config en location. Du coup, comme je n'arrive plus à maintenir le rythme en termes de changement technologique, que là, mon PC a 7 ans et que je vois que l'investissement par rapport à mes besoins sont trop importants et voilà. Du coup, j'ai décidé de tenter la lock sur la machine. Donc voilà, ça coûte quand même. Enfin, là, honnêtement, moi, ça me coûtait 70€ par mois à peu près. Mais pour une machine avec un Ryzen 9, 32Go de RAM. Et une GTX 3080.
Ah oui, là c'est une machine à 3000€, hein, donc à 70€ par mois, t'as le temps de rentabiliser.
Alors que je m'engage sur 3 ans, mais en fait je peux la changer au bout de 18 mois. D'accord. Donc c'est assez intéressant.
Ah, intéressant, j'aurais peut-être dû. ça me paraît pas mal du tout ça, il faudrait que je leur demande s'ils font alors, ça, mon petit magasin de PC, mais ouais. Je crois pas que
alors,
ça
soit. Alors je ne l'ai pas encore commandé parce que la machine est difficile à avoir, elle bien est sûr. Dispo dans 2 jours, donc je rafraîchis ma page régulièrement et dès qu'elle est dispo, je clique sur payer. Voilà.
Bah, tu nous diras ce que ça donne. Twitter est en train de faire des choses intéressantes. Il y a tout plein de petites choses qui se passent du côté de Twitter, comme ils ont arrêté l'expérience de forcer les gens à passer par l'interface de citation de tweet pour faire un retweet. Donc ça, ils ont arrêté, ils ont dit ça n'a pas trop marché. Ils vont commencer à supprimer la désinformation sur les vaccins sur le Covid-19, un petit peu comme d'autres géants de la tech. Ils ont également un moyen de déterminer quel tweet vous trouvez rigolo, ce que je trouve intéressant. La manière dont ils font ça serait intéressante à détailler, mais ils ont un moyen donc de vous proposer des tweets rigolos plus efficacement. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Et peut-être que ça peut permettre de détendre un petit peu l'atmosphère, c'est pas mal. Ce que je veux dire, c'est que si ça peut être efficace, ça veut dire qu'ils vont pas forcément vous pousser des tweets anxiogènes parce que c'est très retweeté. Ils vont pouvoir vous pousser des tweets marrants. Ça pourrait détendre un petit peu Twitter, c'est pas plus mal. À voir si ça marche. Ils ont aussi lancé leur système de Rooms comparable à Clubhouse. En gros, ce que c'est un chat audio sur Twitter. Je suis très curieux de voir ce que ça donne. C'est un chat audio où on peut inviter, je crois, une centaine de personnes, peut-être plus, et il commence avec des personnes qui sont dans des minorités, parce que évidemment, le problème du harcèlement est un gros problème sur Twitter et ailleurs, et ce genre de fonctionnalité est très prompte à générer ce genre de choses. Donc là, c'est en invitation uniquement avec des personnes qui font partie de minorités, mais le dernier truc dont je voulais parler spécifiquement, c'était une nouvelle fonctionnalité qu'ils sont en train de tester, qui est des humanization prompts. C'est quoi humanization prompts? C'est des affichages d'humanisation de la personne à laquelle vous parlez, dans le but de réduire les comportements toxiques. Comment est-ce que ça va marcher? Ça va marcher quand vous répondez à quelqu'un, peut-être que ça sera déterminé par des messages qui sont un peu controversés ou ce genre de choses, mais ils peuvent afficher des informations sur la personne à laquelle vous répondez. Par exemple, dans l'exemple qu'il donne, c'est les choses que vous avez en commun quand quelqu'un répond à une autre personne. Vous et Maria suivez tous les deux des sujets comme le football, les chiens et le rap. Et ils vous disent pas quoi dire, ils vous disent pas quoi répondre, ils vous empêchent pas de répondre, mais c'est juste, la personne à laquelle vous répondez, c'est une personne qui aime bien telle et telle.
Fais gaffe quand même, vous avez des points communs.
Mais c'est vraiment humaniser la personne, quoi. Et alors, je sais pas si ça marchera, mais je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que c'est vraiment une idée. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, mais je trouve que c'est une idée intéressante.
C'est rigolo parce qu'en fait, c'est une tactique de qui est utilisé dans les prises d'otages.
Oui, exactement. En fait,
D'humaniser les personnes. Parce que c'est prouvé que si au preneur d'otage, tu lui dis « mais je m'appelle Stéphane, j'ai 3 enfants, etc. », il te voit d'un coup comme un être humain et du coup, il sera potentiellement moins enclin à passer à l'acte.
Ouais.
C'est rigolo parce qu'en fait, Twitter, c'est un peu ce qu'ils... Ils essayent un peu de dire bah, « Attends, c'est une personne à qui tu vas répondre, vous avez des points communs, regarde. » Tu vois. Alors peut-être que ça va jouer sur la toxicité, j'en sais rien. Alors sur les gros toxiques qu'on connaît, non, je pense pas.
Ah bah bien sûr.
Mais peut-être que du coup, il y a des gens qui vont y réfléchir à 2 fois. C'est peut-être pas une mauvaise chose. Ouais.
Ou peut-être répondre différemment. En tout cas, il faut essayer, quoi. Il faut essayer, on verra ce que ça donne. Il y a des trucs qui n'ont pas marché par le passé, mais je pense que c'est une idée intéressante. Bon, parlons
priori,
un petit peu.
C'est Laurent qui disait aussi qu'il y a une fonctionnalité qui va te permettre de partager tes tweets sur Snapchat.
Oui, on en parlait la semaine dernière, tout à fait. Twitter est en train de s'insérer sur tous les réseaux sociaux.
On mange à tous les râteliers.
Alors, on va en parler, hein, bien sûr. C'est un sujet qui est très gaming, mais qui est également un tremblement de terre dans le monde de la tech qui est cousin du gaming. On a déjà parlé de la sortie du jeu Cyberpunk 2077, qui était l'un des plus gros jeux de l'année et qui a été perclus de bugs, en particulier sur les versions console, PlayStation 4 et Xbox One, à tel point c'était tellement buggé, tellement problématique que figurez-vous qu'il s'est passé un truc qui ne s'est jamais passé jusqu'à maintenant. Sony a décidé de retirer le jeu de son store et de rembourser sans aucune question tous ceux qui demanderaient un remboursement. Alors le remboursement, ça s'est déjà vu. D'ailleurs, Microsoft fait la même chose. Il rembourse sans poser de questions et c'est, comment dire, intéressant parce que Microsoft était partenaire commercial de lancement de Cyberpunk et ils avaient une édition spéciale de la console Xbox One qui était vendue dès le mois de juin, etc., etc. Et donc le remboursement sans poser de questions, ça fait quand même un peu mal. Mais Sony a carrément retiré le jeu de la vente sur son store en ligne. Vous ne pouvez plus acheter en ligne, en tout cas, il faut le trouver en physique si vous souhaitez l'acheter quand même, ce qui serait un choix étrange, mais sur PlayStation 4, vous ne pouvez plus acheter le jeu, ni PlayStation 5 d'ailleurs, numériquement. Alors, je précise, le jeu a énormément de bugs sur PC, mais c'est un niveau au-dessus sur les consoles d'ancienne génération. Il n'est pas disponible sur les consoles de nouvelle génération, donc c'est une situation un peu particulière. Mais
c'est un niveau en dessous, tu veux dire.
Au niveau des bugs et de la des problématiques, on est un niveau
au dessus. Le problème, c'est la qualité graphique, quoi. Enfin, j'ai vu une photo hier, c'est Instant Gaming, je crois, qui l'a posté sur Instagram ou GOG, je ne sais plus. Et t'avais une photo de Baby Yoda. Donc ça, c'était Cyberpunk sur PC. Et puis après, t'avais la version PS4 et genre le bébé Yoda, il était fait, tu sais, avec une pastèque pour la tête, des concombres pour les oreilles. Et voilà. Et c'est tellement vrai, en fait. Voilà, j'ai trouvé ça énorme.
C'est vrai. Et on le précise dans la chatroom, quand on a un gros, gros, gros PC, surtout qu'ils sortent des patchs correctifs depuis le lancement il y a une dizaine de jours, et donc ils améliorent un petit peu les choses, quand on a un gros PC, ça pose moins de problèmes. Mais clairement, sur les consoles d'ancienne génération, c'est très, très compliqué. Et bon, après, il n'y a peut-être pas plus de commentaires que ça à faire, mais le fait que Sony retire le jeu de la vente, je crois que j'ai jamais vu ça. Je crois que j'ai jamais vu retirer un jeu de la vente. Proposer des remboursements, oui. Mais
ouais, c'est ça. Après, moi, c'est un jeu que j'attendais énormément. Ma machine, je la commandais pour Cyberpunk. Hein,
ouais.
Je ne veux pas m'en cacher. Et en fait, je suis tellement content qu'il n'y ait pas eu de stock et que du coup, je vais peut-être découvrir un jeu au moment où je vais le prendre qui sera moins buggé, tu vois, avec une grosse carte graphique. Voilà, bah, du coup, je suis content d'attendre un petit peu. Mais il y a déjà pas mal de réductions hein, qui arrivent, même sur PC. Tu le trouves déjà à facilement moins 20%, moins 25%. Ouais. Donc voilà.
Ouais. Donc voilà, Cyberpunk. Je voulais aussi évoquer cette fonctionnalité intéressante de Netflix qui est en train de tester le fait de jouer des vidéos sans vidéo, donc uniquement avec le son. Bon, alors, ça peut servir dans certains cas. Il y a des gens qui, je ne sais pas, écoutent Netflix dans les transports, qui n'ont pas la vidéo activée. Pourquoi pas ? C'est un petit peu surprenant d'avoir Netflix sans vidéo, mais on parle d'économiser de la bande passante et de l'énergie sur les serveurs. Bon, bah, peut-être que ça peut aider. Ça me paraît anecdotique, mais c'est rigolo, je trouve.
C'est rigolo. Après, les personnes aveugles, ça peut aussi leur permettre d'économiser de la banque passante.
Peut-être, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a deux sujets d'intelligence artificielle qui sont assez intéressants. D'une part, il y a à la mi-décembre, la US Air Force, les forces armées américaines, qui ont annoncé qu'ils avaient contrôlé un drone entièrement par intelligence artificielle. C'est un algorithme qui s'appelle MicroZero qui a contrôlé un drone. Il y avait un pilote qui contrôlait le drone également, mais il n'a pas touché à la manette. Et ce qui est intéressant, c'est que le drone a décidé entièrement, sans assistance humaine, comment attribuer les ressources du drone pour éviter de se faire détecter, pour bien repérer les trucs qu'il devait repérer. Donc, bon, voilà, je ne fais pas plus de commentaires. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner pour le futur. À la limite, si tout le monde fait ça avec des intelligences artificielles... Bon, déjà que les drones, il n'y a personne dedans, mais si tout le monde fait ça avec des intelligences artificielles, c'est peut-être mieux que d'envoyer des gens se taper dessus, mais en même temps, bon, je ne sais pas, je ne vais pas commenter ça parce qu'il faudrait sans doute un épisode entier, mais au moins vous saurez. Il y a aussi des nouvelles sur de la détection d'armes à feu que sont en train de faire des sociétés qui ciblent spécifiquement les caméras à l'intérieur des maisons. Et au premier abord, c'est quelque chose qui m'a paru scandaleux et très dangereux. Et puis en lisant l'article, je me demande, mon avis est un petit peu plus nuancé. Je mettrai peut-être le lien pour que vous puissiez lire tout ça dans la newsletter. N'oubliez pas que la newsletter sort toutes les semaines et c'est le meilleur de ma veille. Vous pouvez trouver le moyen de vous abonner sur notepatrick.com, bien sûr, comme je le rappelle à chaque fois. Mais ce dont il s'agit, c'est que vous savez qu'il y a plein de systèmes de sécurité qui proposent de mettre des caméras dans vos maisons, dans votre salon, devant la porte, etc. Et ils aimeraient bien, alors on est très dans le domaine des États-Unis, hein, ils aimeraient bien pouvoir repérer les gens qui rentrent chez vous ou qui sont chez vous avec une arme à feu. Et là, on se dit, mon Dieu, 1984, cyberpunk justement, c'est quand même dramatique qu'on en arrive là. Mais en même temps, le truc, c'est qu'il n'y a aucune base de données bien faite, ni de photographie, ni de reconnaissance visuelle d'armes à feu. Parce que c'est un sujet qui est évidemment tabou, donc personne ne veut faire ça. Et du coup, il est impossible de faire ce travail de reconnaissance d'armes à feu pour quelque domaine que ce soit les forces de l'ordre qui voudraient s'en servir pour avoir une... il parlait justement dans l'article des possibilités d'avoir des informations sur la situation avant d'arriver pour gagner de précieuses secondes, de précieuses minutes sur l'action à décider. Et donc, il y a des sociétés qui sont en train de modéliser et de repérer avec des algorithmes d'intelligence artificielle les armes les plus utilisées aux États-Unis. Le contre-argument, évidemment, c'est que tous ces systèmes, on l'a vu et revu, sont faillibles et peuvent provoquer des biais particulièrement problématiques. Alors, on ne sait pas encore comment ça pourrait se manifester dans les reconnaissances d'armes à feu. Mais peut-être que, on peut imaginer des dizaines de scénarios où ça serait problématique si on commence à s'engouffrer dans ce type de reconnaissance et d'activité de reconnaissance par intelligence artificielle. Donc, vous connaissez tous ces sujets, vous en avez entendu parler à de nombreuses reprises dans l'émission. Devoir pour les vacances, essayez d'imaginer ce que ça pourrait provoquer comme problème. Et puis, on s'en reparle peut-être en 2021. Mais je voulais le mentionner parce que j'ai trouvé que c'était une sujet assez intéressante.
C'est intéressant, effectivement. Et après, il y a... y a plein de questions à se poser, quoi. Comment est-ce que tu reconnais une arme factice? Comment tu reconnais un jouet? Comment tu reconnais si c'est un adulte ou un enfant? Bon, ça, c'est pas le plus compliqué. Mais tu vois, ben, potentiellement, moi, j'ai deux fils, t'en as un. Ils ont des armes à feu. C'est des fausses, mais ils ont joué au cow-boy et au voleur. Enfin, tu vois, donc. Ouais, ça pose, ça, notamment à l'intérieur des maisons, ça pose pas mal de questions. Ouais.
Et c'est pour ça qu'il faut que ça soit bien reconnu fidèlement et sans biais et sans. On me signale dans la chatroom que j'ai fait une erreur sur le vol du drone. En fait, le pilote gérait la conduite du vol et l'intelligence artificielle faisait tout ce qui était la mission, les décisions sur la mission elle-même. Donc, merci. Mannequin Peace, ah d'accord, je comprends ce que tu y avait des chiffres partout. Merci pour la correction. Vous voyez, c'est pratique la chatroom, c'est le peer review en direct. Mais bon, c'était quand même des décisions importantes à prendre pendant la mission, c'est évidemment le cas. Quoi d'autre ? Est-ce qu'il y a d'autres sujets intéressants que j'ai pas traités ? Il y a tout un tas de choses avec des une loi sur le relief bill, le funding bill, la finance américaine à laquelle ont été attachées tout un tas de lois sur le copyright qui sont visiblement extrêmement décriées par les spécialistes américains. Et c'est une loi qui est votée en urgence, qui ne devrait pas avoir ce genre de choses attachées parce que ça n'a rien à voir et qui sont poussées par les instances du copyright, par les organismes de copyright américains. L'un des trucs qui est tellement mal écrit, il y a un truc qui est tellement mal écrit que ça pourrait vouloir dire que n'importe quelle personne qui stream du contenu copyrighté serait un felon, donc serait un criminel, une classe de criminalité aux États-Unis, et ça pose des problèmes. Disons que selon le texte de la loi, il est possible que n'importe qui stream sur Twitch, comme les jeux, c'est du contenu copyrighté, eh ben, ils seraient des criminels, simplement parce qu'ils streament les jeux, même si personne ne veut, c'est très différent du fait que les ayants droit demandent des frais, ce qui est aussi une question épineuse. Mais la loi est hyper mal écrite et ce n'est pas la seule qui est attachée à ce projet de loi. Donc, ça fait un scandale, mais ça vient d'arriver, donc on n'a pas encore tous les détails. Quoi d'autre ? Il y a également des nouveautés que va proposer Facebook. Ils font pas que des choses dramatiques, mais ils ont un outil d'intelligence artificielle qui pourrait résumer un article en quelques bullet points, qui pourrait arriver très bientôt, qui a été annoncé visiblement dans un meeting de la société. Il y a un système de soutien aux créateurs de vidéos sur Facebook, toujours un système de soutien financier qu'on a vu par ailleurs sur YouTube ou Twitch. Il y a un système de marketplace pour des personnes qui font des petits travaux. J'en parle régulièrement dans l'émission. C'est difficile de trouver, il y a des sites qui font ça, mais c'est un peu difficile de trouver des gens qui font, même pas des petits travaux d'ailleurs, je veux dire des travaux à la maison, de la plomberie, de la réparation de trucs. Bah, Facebook pourrait se jeter dans l'arène également. C'est tout Facebook hein, à la fin de l'émission. Et quand je vous parlais de Godzilla et de Mothra, c'est faut trouver la version la plus tentaculaire, c'est à celui-là que correspond Facebook. Mais ils vont aussi, comme je le disais tout à l'heure à propos de Twitter, ils vont signaler aux gens qui ont partagé un élément de désinformation sur le Covid-19 que c'est de la désinformation. Il y avait déjà ça sur d'autres sujets. Et puis, le truc le plus vicieux, que j'ai vu de tout ça, qui m'a fait rire, mais en même temps rire peut-être un peu jaune, c'est la décision de Facebook de déplacer le droit légal de ses utilisateurs anglais de l'Europe aux États-Unis. Évidemment, les Anglais sortent de l'Union européenne. Et donc, ils ne seront plus soumis aux lois de l'Union européenne. Ils auraient pu le faire en Angleterre ou ailleurs. Hein. Ils auraient pu même garder les lois qui sont en place ou les pratiques qui sont en place ou les emmener en Irlande où ils étaient déjà hébergés, si je ne m'abuse, les laisser en Irlande. Et ils vont être soumis maintenant aux lois californiennes. Alors, la Californie est en train de passer des lois de protection de la vie privée assez drastique, mais c'est amusant de voir qu'ils les font passer aux États-Unis et que donc ils n'auront plus les protections européennes. Et je trouve que ça symbolise bien, on a beaucoup parlé de Facebook, ça symbolise bien l'attitude qu'a Facebook envers ses utilisateurs. Je trouve
après,
ça...
Après, c'est étonnant qu'ils choisissent la Californie, parce que la Californie est quand même un État qui...
Ils ont voté des lois qui protègent la vie privée. Oui.
Ouais. C'est étonnant, mais bon, ok.
Bah, disons que entre la Californie et l'Union européenne, je pense que c'est quand même l'Union européenne qui protège mieux, tu vois.
Oui. Donc, le RGPD, ça n'a rien à voir.
C'est un peu ça, ouais. Donc voilà, j'ai couvert beaucoup de choses. Est-ce que tu veux ajouter un petit commentaire avant qu'on ne clôture l'émission ?
Non, rien de particulier. Bah, moi, ça m'a bien fait rire aussi. Enfin, jaune comme toi, la partie Facebook qui rapatrie. Il rapatrie les données, voilà. Il y a une petite faille de sécu dans iMessage dont on n'a pas parlé, mais
c'est vrai. Non, mais tu peux l'évoquer. Elle est très très grosse cette faille de sécurité.
Donc effectivement, il y a une faille de sécurité dans iMessage, mais j'ai pas réussi à me pencher dessus encore, et donc voilà, je ne vais pas revenir en fait, des plombes dessus, mais. Elle a quand même permis d'espionner des gens, quoi.
Bah, c'est assez gros, hein. On va le couvrir rapidement, mais c'est une société qui s'appelle NSO, qui est israélienne et qui fournit des outils pour débloquer les téléphones mobiles et notamment les iPhones. Et ils en avaient une qui permettait sans aucune intervention et sans aucune trace d'infecter les appareils iOS. La mise à jour iOS 14 règle ce problème, mais il y a des gouvernements, là encore, qui s'en sont servis pour espionner notamment des citoyens moyen-orientaux et des journalistes de la chaîne de télévision Al Jazeera. Et ils avaient accès au micro, accès à l'écran, accès aux conversations chiffrées iMessage, etc. C'est une grosse, grosse faille. Alors, encore une fois, qui a été corrigé, mais c'était un gros morceau. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il y a en ce moment un procès entre WhatsApp et NSO, parce que la société NSO avait fait le même coup à WhatsApp, donc la société de Facebook, il y a quelques temps. Et WhatsApp avait fait un procès à NSO en disant « Mais vous ne devriez pas avoir le droit de faire ça parce que c'est un outil de piratage qui est important. » Et NSO répond « Oui, bah vous êtes gentil, mais ça nous permet aussi de débloquer les téléphones des criminels. Si les forces de l'ordre ont besoin de débloquer un téléphone d'un terroriste ou ce genre de choses, eh bah, c'est notre outil qu'ils utilisent. Donc, nous, c'est un outil neutre. Après, pourquoi les gens s'en servent bah, on verra bien ce que les gens font. » Et il semblerait que ça soit leur outil qui a été utilisé dans le hack de l'appareil de Jamal Khashoggi. Donc, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Mais, donc voilà, je sais même pas vraiment quel est le bon avis à avoir. Parfois, j'ai des avis tranchés, mais est-ce qu'il faudrait interdire à NSO de proposer ce genre de hack ? Alors, quand on voit ce qui s'est passé avec les journalistes d'Al Jazeera, on aurait tendance à dire oui. Mais si on interdit ce genre de hack et toutes les sociétés de la tech disent « Non, ça attaque le chiffrement, ça pose des gros problèmes », mais autant les sociétés de la tech ont le droit de chiffrer autant que possible, autant je me dis bah, « C'est de bonne guerre, les gens qui essayent de hacker les systèmes en question devraient avoir le droit de le faire aussi, parce que c'est un équilibre qui se crée, et donc on a quand même une potentielle porte de sortie pour, si on a des téléphones très ciblés, notamment de criminels et terroristes au hasard, mais de criminels en général, avoir peut-être une chance de pouvoir accéder à ces données-là. Si c'était interdit, eh ben, potentiellement, on n'aurait aucune chance d'accéder à ces données, même si... Parce que le problème de ce genre de choses, c'est l'espionnage, la surveillance de masse, je pense. C'est pour ça que le chiffrement de bout en bout est important. Si c'est la surveillance très, très, très ciblée, c'est plus les mêmes paramètres et c'est plus les mêmes conclusions, je crois. Donc,
ouais, mais enfin, on est toujours quand même très borderline avec ce genre d'outils.
Clairement, clairement.
Après, il ne faut pas se leurrer. Hein. Il y a beaucoup d'outils de sécurité qui utilisent des techniques de hacking pour fonctionner. Quand aujourd'hui, en entreprise, pour être sûr que tu ne ramènes pas de virus, etc., on fait ce qu'on appelle une rupture protocolaire. Donc, tu as du HTTPS, il est déchiffré pour être analysé par la machine et rechiffré en sortant de la machine. Quelque part, c'est une technique de hacking. On déchiffre à un moment donné ta transaction, on regarde si tout est OK à l'intérieur, et après on la rechiffre comme si de rien n'était pour te dire « Non, mais c'est bon, t'inquiète, ton paquet, il est déchiffré. Ouais. » Mais en fait, non, il est passé par une rupture protocolaire et ça a été déchiffré. On est très borderline là encore, tu vois. Donc, bon, voilà, c'est compliqué d'avoir un avis tranché, effectivement, sur le sujet.
Ouais. Et ben voilà, ben au moins maintenant vous saurez de quoi il en retourne. Merci d'avoir fait référence à ce sujet qui est important également. Ben je crois qu'on aura tout couvert aujourd'hui dans un épisode, j'espère, qui vous aura intéressé et plu. Si vous voulez plus de sujets passionnants couverts par Stéphane, dis-nous où est-ce qu'il faut aller, Stéphane.
Ah bah alors, ATLB Stéphane sur Twitter, ça n'a pas changé. Et puis là, j'ai repris un petit peu du service sur Révolution 3D. Donc si vous vous intéressez à l'impression 3D, etc., je recommence doucement les vidéos parce que je change de logiciel de montage et tout. Donc j'ai un peu abandonné le Mac et je repasse sur PC. Donc je découvre Premiere. Enfin, c'est une catastrophe. Mais bon, je petit à petit, j'y arrive. Et donc voilà, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Révolution 3D.
Également. Super, merci beaucoup.
Et sur Studio Renegade dans Beats.
Évidemment. Voilà. Évidemment, Studio Renegade sur Twitch et partout. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous savez que notepatrick.com est le site où vous retrouvez tous mes liens, y compris le lien vers la newsletter, si vous voulez vous abonner. Et vous pouvez également retrouver le lien vers Twitch et YouTube. Enfin, en même temps, c'est NotePatrick partout, donc ce n'est pas très difficile de s'en souvenir. Le truc dont il faut activement se souvenir, c'est patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission financièrement quand vous rentrez chez vous et que vous mettez les clés dans le bol et que ça fait cling et que si vous ne soutenez pas encore, vous dites « vite, 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 il faut que j'aille sur Patreon ». Et si vous soutenez déjà, vous dites « Oh, quel bonheur, quelle joie de soutenir une émission d'une telle qualité !» Vraiment, ceux qui ont fait ce choix ont vu leur qualité de vie augmenter de manière substantielle. Ça a été prouvé par toutes les études que vous pouvez voir sur Facebook. Et on sait bien qu'on peut leur faire confiance à ces études-là. On vous remercie de nous avoir écoutés. Je rappelle tout de même que la semaine prochaine, on aura un épisode spécial sur l'éducation et l'éducation de la technologie, la manière dont on enseigne la technologie au lycée. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment passionnant. Un grand merci à Jérémy d'avoir pris du temps pour nous parler de tout ça. J'ai appris énormément de choses. Je pense que ça vous intéressera. On a également des épisodes spéciaux jeux de l'année et bilan de la génération entière dans le rendez-vous jeu. Je pense que c'est des épisodes qui pourront vous intéresser parce que c'est les épisodes à écouter dans l'année. Donc moi, j'aurai des semi-vacances pendant une dizaine de jours. Et puis on revient bien sûr fringant et heureux en 2021. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes, un joyeux Noël à tous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao à tous.